Quand on est cliente avec un guide, on a cette chance de pouvoir lui laisser pas mal de nos inquiétudes quand même. Et puis plus on avance dans son évolution des sorties de montagne, plus on a besoin d'avoir un peu plus d'engagement et de responsabilité au niveau de la cordée.
Bonjour et bienvenue dans Altitude. C'est à un lien central dans l'histoire de la montagne que nous allons nous intéresser cet après-midi, celui du guide et de ses clients. Autrefois, les guides étaient souvent des paysans de la vallée qui étaient engagés d'abord pour leur courage et leur connaissance de l'itinéraire, à une époque où il n'existait pas encore de cartes, de GPS ou de topo. Aujourd'hui, pourquoi faire appel à un guide? Est-il un gestionnaire du risque? Un réducteur du risque? Attention, il y a un distinguo. Comment aborde-t-il les questions de responsabilité avec ses clients? Dans le courant du mois de mars, nous avons eu la chance de pouvoir suivre une équipe de skieurs de randonnée accompagnés d'un guide et d'un aspirant guide pour une traversée à ski en Haute-Engadine dans le canton des Grisons. Départ dans quelques minutes. Bonjour Caroline Christina.
Bonjour Simon.
Vous êtes notre chroniqueuse du jour. De quoi allez-vous nous parler tout à l'heure?
Eh bien, je vais vous parler d'une poignée de M&M's au sommet du Munch.
Merci pour la publicité. Une poignée de bonbons au sommet d'un 4000. On en a déjà l'eau à la bouche. À tout à l'heure, ce sera vers 17h45, 17h50.
Le guide, il prend la charge de mener à bien la course parce qu'il a les compétences pour, mais il doit aussi avertir le client naturellement des dangers qui existent. Et puis c'est une acceptation. C'est pas possible d'être simplement un pare-danger et être sûr que rien ne va se passer parce qu'on a un guide avec soi. Ça, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Et puis bien se rappeler d'une chose, surtout, c'est que les montagnes, ben, y a pas de petites montagnes, il n'y a pas de petites avalanches. Dans la nature, il n'y a que nous qu'on est petits.
Le guide valaisan Jacky Pochon avec ses propos empreints de sagesse. Il s'exprimait il y a 10 ans, c'était sur les ondes de la télévision suisse romande suite au procès du drame de la Jungfrau qui avait marqué tout le monde, où 6 militaires avaient perdu la vie. Alors ces guides justement, comment les clients les voient-ils? Pourquoi font-ils appel à leur service? Quel est le lien entre eux au-delà de celui de la corde? Nous nous sommes rendus il y a quelques semaines dans le canton des Grisons pour rencontrer une formidable équipe, il faut bien le dire, composée de 7 amies genevoises dans la force de l'âge, issues du ski club de Meignier. Elles s'appellent Catherine, Isabelle, Sophie, Elvire, Véronica, Daniel et Noël. Avec elles, un seul homme, un bienveillant septuagénaire qui se prénomme Armand et qui sera en quelque sorte le fil rouge de ce reportage. Cette équipe était conduite par un guide de haute montagne, Yann Nussbaumer, du bureau Helium sur la côte vaudoise, et par un aspirant guide, le Lausannois Arthur Bûcher. L'itinéraire que l'on va parcourir est une traversée à peau de phoque du col du Julier jusqu'au pied nord du col de l'Alboula, avec une nuit en cabane. Les skis sont le plus souvent au pied, parfois aussi sur le sac lorsqu'il a fallu sortir les crampons. Alors pour se mettre dans l'ambiance tout de suite, on va commencer par un réveil au petit matin dans un dortoir de l'auberge La Veduta, située à 2200 mètres d'altitude. C'est juste sous le col du Julier, entre Tiefenkastel et Silva Plana.
Salut.
Comment c'était la nuit?
Non, ça s'est très bien passé, sans problème.
On n'est pas trop haut, là?
Non. Pas d'handicap à cause de l'altitude.
Alors, qu'est-ce que ça dit dehors?
Ciel bleu, magnifique. Juste encore quelques petits nuages, mais ça se présente bien comme ils nous ont annoncé.
Alors toi, tu es?
Armand Chanton, moi.
Et tu as quel âge?
J'ai 73 ans. J'ai la chance de pouvoir encore faire la rando avec ce groupe qui est vraiment formidable et qui s'occupe bien de moi parce que je rame. Mais bon, pour le moment, ça va encore. Alors, ce sera peut-être une des dernières fois, mais je me prépare avant. Il faut que je mets presque un mois avant pour me préparer, pour être sûr de ne pas les retarder et puis pas que je sois un poids lourd pour eux, quoi.
Là, il est quelle heure?
Il est 6h30.
Bon, on va aller se préparer, prendre le petit déjeuner.
Ouais, tout à fait. On s'est déjà organisé hier soir pour, avec le sac, tout préparer pour ce matin, pour pas qu'on perde du temps à chercher des choses ou à préparer, quoi.
Mmh.
Armand a l'air prêt, bien qu'un peu anxieux. Nous allons maintenant descendre dans la salle du petit déjeuner à la rencontre des autres participants.
Bonjour. Comment ça va?
Bien.
Vous avez bien dormi?
Super bien. Il est beau.
Catherine.
Pourquoi
partir en montagne avec un ou deux guides en l'occurrence, on est avec un aspirant guide aussi?
Pour être là-haut et puis pour profiter d'être un peu loin de la civilisation. Et ça, je fais confiance aux guides pour nous amener là-haut. Toute seule, j'y vais pas. Non, c'est trop complexe. Des fois, ils essayent de nous expliquer l'histoire des avalanches et tout, mais c'est trop complexe. Il y a des pentes, alors des fois on dit que c'est trop raide, alors on ne doit pas aller là. Si, celle-là, tu peux aller parce qu'elle a été exposée comme ça. Non, c'est très, très compliqué, donc je pense que c'est un vrai métier. Ils font beaucoup d'années pour être au point. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'intuition. Donc, chacun son métier.
Et le tien ?
Je suis architecte d'intérieur.
Quel est le lien avec le guide ? Est-ce qu'on s'en remet totalement à lui ?
Alors moi, oui. Dans le sens où c'est lui qui doit prendre les décisions, c'est lui qui est le chef, et il faut lui faire confiance. Sinon, ça ne sert à rien d'aller là-haut.
On remet sa vie entre ses mains?
Ah non, je crois pas. On doit être responsable, on doit se prendre en main, on doit s'occuper de nous. Par contre, s'il nous dit qu'il ne faut pas aller là, vous prenez 10 mètres, vous laissez 10 mètres entre chaque, c'est sa décision, on ne va pas du tout la contredire.
Arthur, tu es aspirant guide. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
Le but, c'est d'aller vers la cabane Yenach. Donc on va partir depuis la Veduta et traverser vers la cabane Yenach par un itinéraire un peu moins classique. On va certainement devoir mettre les skis sur le dos un moment et j'espère qu'on aura du beau ski derrière pour redescendre sur la cabane.
Ça, c'est un groupe que tu ne connais pas forcément. Comment tu le vois?
Alors, je connais presque tout le monde, sauf Armand. J'ai eu le plaisir de faire sa connaissance, mais les autres, je les connais depuis le ski club, justement, où je les accompagne de temps en temps les week-ends. Donc, j'ai pu déjà les rencontrer quelques fois et connaître un peu la dynamique du groupe qui est assez bonne.
Allez, assez parlé, il est déjà 7h30, il est grand temps de finir son café, la montagne nous attend et le guide Yann Nussbaumer donne les instructions de départ.
Donc on se voit à moins 5 sur le parking, avec les peaux sur les skis et puis comme on a dit, les couteaux sur le dessus du sac.
Bon Yann, comment tu vois cette journée ?
Extrêmement bien, ouais. Ça a l'air d'être un petit peu la journée de la semaine, alors on va essayer de la savourer seconde après seconde.
Comment on se positionne comme guide par rapport à la météo? Maintenant, on a de plus en plus de canaux d'information, des applications, etc. Est-ce que ça facilite la tâche ou est-ce qu'il y a un petit effet pervers de ça?
En fait, dans un certain sens, ça la complexifie parce que beaucoup de personnes la voient et nos clients aussi, et ils sont heureusement de plus en plus informés. Et puis des fois, quand nous, on est convaincu qu'on arrive à passer entre ondes de perturbation ou qu'on arrive à passer question vent parce qu'on sera à l'abri, c'est toujours peut-être un petit peu plus dur qu'avant d'expliquer aux gens qui ont vu que voilà, le danger d'avalanche était très élevé, que la météo est pas top. On doit avoir une relation encore plus de confiance avec nos clients pour que si on leur dit on est sûr que ça passe, malgré les informations qu'eux, ils ont, qu'ils partent sereinement.
Maintenant, tout le monde a un avis.
Tout le monde a un avis, mais si on a des relations durables et saines avec nos clients, ces avis-là ne sont pas malsains.
Mais le guide écoute l'avis des membres du groupe ?
Surtout dans le sens où l'avis des membres du groupe va changer la manière dont ils seront en montagne. Alors forcément que si leur avis c'est qu'ils n'ont pas vraiment envie d'être là, ils vont agir différemment sur leur ski. Après, je ne crois pas qu'un avis de quelqu'un qui dit « je veux y aller » ou « je ne veux pas y aller » alors que nous on pense l'inverse, sera vraiment pris en compte. Mais par contre, de voir que quelqu'un n'est pas très sûr parce qu'on lui a dit qu'il y avait beaucoup de dangers d'avalanche, il faut gérer ça comme une donnée supplémentaire. Par exemple, je dis pour les avalanches, mais aussi pour le vent.
Donc tu es guide et un peu psychologue aussi.
Ça fait partie du métier.
Et Armand dans tout ça, lui qui redoutait tant ce moment du départ, comment va-t-il?
Viens, on se rapproche d'Armand.
Ah, mais Armand, tu veux une petite main, Armand?
On va peut-être l'aider à mettre ses...
Comment ça va, ses peaux, Armand?
Bah écoute, ça va, c'est bon.
Ça colle?
Mais je suis un peu long ce matin, je m'avais pas rempli mon thermos, je suis complètement déséquilibré. Non, c'est bon.
Ah, tout est dans le timing.
Ah ouais, mais c'est ça. C'est... Il faut gérer le stress maintenant. Et c'est moins facile qu'avant. Voilà, je suis prêt.
Ça y est, nous sommes sur les skis, le ciel est déjà magnifique, mais la neige est encore très dure. Il s'agit donc de s'équiper correctement et de sortir le matériel supplémentaire.
Qu'est-ce qu'on fait là?
Là, on peut enlever une couche parce que la machine est chauffée, on est en plein soleil, et on met les couteaux parce qu'il y a un petit passage un peu raide et gelé.
Magnifique piolet, Yann.
Ça, c'est mon copain.
Donc je le décris, c'est un piolet en bois.
Ouais, c'est un piolet en bois de la marque Bent, fabriqué à Grindelwald. C'est les piolets historiques des guides suisses et qui sont des piolets de taille. C'est des piolets qui s'ancrent pas du tout dans la glace ou la neige, mais qui ont un pic, un peu comme un pic à glace, et une panne pour tailler la trace. Alors ça nous permet de faire des marches à pied ou de faire des traces à ski pour augmenter le confort de nos hôtes. Et en fait, c'est une entreprise familiale à Grindelwald qui les fabrique encore sur commande, sur mesure. Dessus, on peut se faire graver son nom. D'ailleurs, pour la petite blague, c'est que c'est pas le nom, c'est un numéro. Et c'est mes amis de longue date coursiers à vélo qui me l'ont offert quand j'ai terminé la formation de guide. Et ils ont décidé de pas mettre mon nom, mais de mettre mon numéro de coursier. Du coup, je suis mes potes durant toute ma carrière en montagne. Et ça me touche beaucoup de voir ce numéro quand je suis en montagne.
T'as vu ce sac à dos, ouais?
Ah oui, c'est les couleurs d'époque.
Ils faisaient des sacs à dos solides.
De quand est-ce qu'il date, ce sac, Armand?
Une cinquantaine d'années, dans 40 ans à peu près, quoi, gros. Grosso modo, c'était tout au début. Quoi.
C'était du solide, hein?
Ah ouais, c'était du solide, alors ça c'est clair.
Comment ça va jusque-là?
Bah écoute, très dur pour moi, je pense que c'est un peu les effets de l'altitude. J'ai la peine à le cœur et il tape fort. Ah voilà, et peut-être que ça va venir maintenant gentiment. Mais ouais, très dur, très dur. Départ dur.
Bon, ça va aller mieux.
Ça va aller mieux. On espère.
Bon Noël, pourquoi faire du ski de randonnée au fond? C'est long, c'est parfois pénible, on porte. Il faut être un peu masochiste, non?
Bah non, moi je trouve pas. Si on en fait régulièrement, qu'on a un bon entraînement, c'est que du bonheur. Et puis on est toujours dans des endroits magnifiques. Même quand il fait pas beau, c'est la montagne, quoi. Moi j'aime la montagne dans tous ses états, quoi, on pourrait dire. Et puis c'est aussi un petit peu le ras-le-bol du ski de piste, du monde. Là on se retrouve, c'est calme, on rencontre des belles personnes. C'est une autre philosophie de la montagne.
Et les grisons?
Alors pour moi, c'est la première fois que je viens faire de la rando en hiver au grison. Alors voilà, c'est la découverte.
On a l'impression comme ça, vu de l'ouest de la Suisse, que c'est un coin plus sauvage.
Ouais, on a cette impression là aussi. Et puis de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en arrivant, parce qu'on est arrivé en train et en bus, il y a quand même des grands plateaux, des grandes vallées. C'est plus vaste que chez nous, on a l'impression.
Et là, le rythme?
Là, le rythme, c'est parfait. Hein, on s'adapte là un petit peu à Armand, qui est un petit peu stressé ce matin. Mais tout va bien pour tout le monde, comme ça, on a le temps de discuter, d'arrêter de faire des photos.
On essaie de trouver la ligne la plus esthétique dans la montagne.
Elle est où, Yann, la ligne la plus esthétique?
Dans les zones les moins raides.
Donc en fait, c'est la loi du moindre effort.
Exactement. On est des gros flemmards. Non, mais la montagne propose des lignes, c'est joli de les suivre, si on peut, hein. Plutôt que de les forcer tout droit. Voilà.
Comment ça va, Catherine ?
Super bien, magnifique. On est dans un endroit de rêve.
Est-ce que tu connais les sommets, là ?
Pas du tout.
Voilà.
Non. Le guide, il sait pas.
C'est pas gentil.
Est-ce que le guide connaît le nom de tous les sommets, là ?
Langage guide.
De toute façon, c'est tous des pises.
C'est des pises ?
C'est des pises,
des
voilà.
Pizzes.
Des pises.
Des pises.
Gondas, quelque chose Gondas.
Oula, sans lunettes, c'est
des
pas possible.
Pizzes, hein. Là.
Bon, où est-ce qu'on est exactement ? On est sous le Piz quoi ?
Le Piz Surgonda, qui est notre sommet qu'on voit juste pas en fait, qui est derrière ces crêtes. Ces crêtes n'ont pas de nom.
Enfin, nous nous sommes repérés cette fois au milieu de cette magnifique montagne. Nous allons faire l'ascension d'un Piz de plus de 3000 mètres d'altitude, là-bas, au fond. Mais avant, il nous faut encore progresser dans une neige toujours assez glacée. Et pour améliorer la progression, les guides ont leur petit truc.
Alors, Daniel, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yann, devant nous ?
En fait, il est en train de nous faire le tracé avec son piolet. Chose qu'il fait toujours, c'est juste incroyable. Dans des pentes raides, il nous prépare une plateforme, soit pour faire une conversion, soit pour nous amener de l'autre côté. Et il prend toujours où il n'y a pas de trace, en fait. Il crée la trace lui-même. C'est juste magnifique, quoi.
Parce que là, on est dans un petit passage avec une neige un peu dure. On n'a pas mis les couteaux, c'est assez raide. Bon, on va essayer cette trace, alors.
Ok.
On y va. Oui.
Du haut de la montagne, le cours d'eau est un fil d'Ariane. Il les arde les champs et emporte les âmes en avant. Quand t'approches les lumières de la ville, il sait se tenir tranquille.
C'était La Rivière par le chanteur français O, alias Olivier Marguerite.
Altitude.
Évidemment, lorsqu'on est en montagne, c'est un peu comme dans la vie. Le risque zéro n'existe pas. Il y a le danger d'avalanche, le risque de dévissage, mais aussi les conséquences de plus en plus fréquentes du réchauffement climatique avec les chutes de pierres. Les grisons ont connu leur lot de drames, notamment il y a un peu moins de 2 ans. 8 randonneurs, on s'en souvient, avaient été tués près de Bondo par une lave torrentielle. Nous en parlons, Yann.
Yann, on est ici... Bon, c'est quand même assez loin, mais à vue de nez, en face du Piz Badil et du Piz Cengalo,
ouais.
Devenu un peu de sinistre réputation, parce que c'est là que ça a déboulé sur Bondo.
Ouais.
Et du coup, tous ces massifs sont interdits, les cabanes sont fermées. Comment tu vois ça en tant que guide ?
Que la montagne bouge, et qu'elle bouge certainement plus vite, apparemment, de ce qu'on dit. Et moi, je veux bien croire ce qu'on dit, parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais qu'après des éboulements dans toute l'histoire alpine et l'histoire littéraire, il y en a eu des fameux... Et du coup, ça fait partie de notre histoire alpine, ces éboulements. Alors,
interdire la montagne ?
Non. Interdire sur sélection, non. Après,
fermer les cabanes, mettre des panneaux d'interdiction ?
Truc de responsabilité, hein. C'est toujours la même chose. Les communes et les responsables des communes et les responsables sécurité de chaque commune veulent se sortir de la responsabilité que s'il y a un accident, ils aient dit on a averti. Je serais peut-être beaucoup plus adepte d'une information. Une personne informée en vaut deux, je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc nous, on essaye de donner accès à nos amis et clients, aux endroits où ils rêvent d'aller. Et puis, l'interdiction, c'est vrai, fait pas trop partie de notre ligne de conduite.
Comment toi, tu gères la préparation d'une course comme ce matin ? Tu dois consulter la météo, tu dois observer aussi beaucoup. C'est quand même une sacrée pression ?
Non, c'est un plaisir. Oui, c'est une... Ouais. C'est un métier, et du coup, c'est une pression qu'on accepte avec plaisir.
Ouais. Mais parfois, c'est plus difficile que d'autres fois.
Il y a des matins, on a un petit peu plus de... on a un peu moins le moral que d'autres, quand on sait que la tâche va s'avérer très ardue. Après, c'est des matins qui sont suivis par des soirées, lorsque tout se passe bien, d'autant plus heureuses. Parce qu'on est content que tout soit bien passé, puis que les décisions qu'on a prises sont bonnes.
C'est des amis ou des clients qu'on a là ?
Question piège. C'est un agréable mélange des deux.
Où est-ce qu'on est exactement ?
Alors là, on est juste sous le Piz Urgonda. On va monter le dernier col pour arriver sur l'arête. Col qui s'avère être un petit peu gelé. Alors on est en train de mettre les couteaux. On va monter au col et après on ne voit pas tout à fait la ligne pour aller jusqu'au sommet. Mais de visu, en voyant le terrain, ça n'a pas l'air très compliqué.
La course se poursuit en direction du sommet que nous atteindrons crampons au pied parce que la pente est trop raide pour la franchir à ski. Petit passage technique avec le vent bien froid qui nous a rattrapés et bien glacés. On ne reste donc pas très longtemps au sommet, on en redescend vite par une petite arête avant de se rééquiper pour la descente.
Alors du coup là on peut enlever les skis du sac, enlever les crampons... Boire et manger un petit truc et mettre les baudriers.
Baudriers, pourquoi ?
Parce que derrière, c'est un glacier. Okay. Certes petit et mourant, mais c'en est un.
Bon, on vient de se faire une jolie petite arête, là. Alors, ski sur le sac, crampons. Comment s'est comporté le groupe ?
Mais, comme on imaginait, c'est extrêmement bien. C'est pas leur première, mais en même temps, c'est un peu impressionnant, mais... Voilà, en encadrant un petit peu, ça allait très bien pour tout le monde. Certains, pour certains, c'est vraiment de la balade. Et pour d'autres, c'est une petite aventure. Et on était un juste milieu dans l'ensemble du groupe entre tout ça.
Alors, je cherche Véronica. Où est Véronica ? Elle est là. Comment ça va, Véronica ? Comment c'était là-haut ?
C'était impressionnant. C'était une première pour moi déjà de mettre des crampons, de marcher comme ça en équilibre entre... deux vides, c'était hyper émouvant, c'était magique. J'ai de la peine à réaliser ce que je viens de faire, et puis c'est hyper émouvant, pardon, hein. Mais c'est une aventure extraordinaire. Pour moi, c'est une première, donc c'est génial. Puis tout le monde est hyper attentionné, tout le monde est...
Ouais. Au revoir, les gens du groupe s'entraident, se donnent des conseils, demandent comment ça va.
C'est un peu comme mes anges gardiens.
Ouais.
J'en ai déjà deux importants, Arthur et Yann. Et puis après, il y a tous les autres qui font toujours attention, pour que tout se passe bien, pour m'encourager, pour me mettre en confiance surtout.
Armand, comment c'était ce sommet?
Écoute, c'est le bonheur total.
Ouais.
C'est vraiment magnifique. Pourtant, ça a été ça, cette partie-là. C'était...
La petite traversée sur l'arête avec les crampons.
Ouais, ouais, parfait. Parfait. Ouais, ouais, ça m'a pas posé de problème. C'est juste eu. C'est par moment, tout d'un coup, le souffle ne vient plus. Puis après, ça repart. Ça dépend de l'effort sur les muscles d'un coup, comme ça. Non, c'est. Puis bon, grâce à lui, il m'a porté mes skis là sur l'arête. Hein. C'est le luxe là.
Mais c'est tarification supplémentaire, non?
Voilà, tout le monde est à nouveau ski au pied, prêt pour une longue descente dans une neige au fond dur, mais poudreuse, en surface juste bien revenue. La fatigue de la montée est ainsi vite oubliée. Mais après la descente, on le sait déjà, et parce que sinon ce serait trop facile, il faudra remettre les pots de phoque pour remonter à la cabane.
Catherine, comment c'était cette descente?
Ah, c'était grandiose, magnifique. Une poudreuse incroyable, c'était des conditions merveilleuses.
Et là, on sentait les guides tout le temps à chercher le meilleur tracé,
toujours.
La meilleure condition de neige.
Pour ça, on peut leur faire confiance à chaque fois. Ils nous cherchent le meilleur petit coin où la neige est juste légère à souhait. Et puis, il faut les suivre, tu sais. Quand ils partent à un endroit, tu te dis « Ah, on va juste regarder où va Yann ou où va Arthur. » Puis, c'est encore mieux.
Et voilà.
Et une de mise.
Bon, bah c'est parti avant qu'on ait une nouveau prof et qu'on mette le tout.
Alors là, il y a tout le monde qui va sentir les fumées.
On va accélérer.
Là, on va accélérer la voie.
Arrivé à la cabane Yenach, 2672 mètres, avec un panorama à couper le souffle après être parti vers 8h du matin du col du Julier. Nous avons fait un sommet entre deux, crampons, piolet, et puis une descente absolument merveilleuse à ski.
Merci beaucoup. C'était magnifique. Oh, mais quelle journée!
Comment ça a été?
Bah écoute, très très dur, mais alors ça vaut la peine quoi. Ça vaut la peine. Mais là, je pourrais pas faire 100 mètres de plus, ça c'est clair. Je suis bout du rouleau.
C'est dans la tête.
Ouais, ouais, on dit ça. Mais... Non, non, mais bon, aidé par tout le monde, t'as vu quoi. C'est ça qui est fantastique, puis tu te sens encouragé, on tire un biscuit par-ci, on t'attend quand t'as un problème technique, non, c'est magnifique.
Noël?
Ah, c'est trop beau. Plein d'émotions. Je crois que j'ai pleuré.
Tout va bien?
Armand, on vient de faire un gros bisou.
Grâce à vous
bravo,
tous. Hein.
Bravo.
Merci, t'es sympa.
Hein. Grande classe.
Et c'est grâce à toi et à l'équipe, hein, parce qu'autrement... Autrement, ça n'y arrivera pas. À 8 heures, on est debout, sans s'asseoir. Juste ça, physiquement, c'est terrible. Et puis l'altitude surtout. Ça, ouais, ça ira encore. Peu, mais l'altitude, j'ai vraiment la peine. Non, mais encore mille merci, parce que c'est sublime d'être là ce soir. Ça.
Et une fois que vous avez enlevé vos pots, laissez les skis ici, on s'en occupera avec Arthur. Et puis vous prenez juste le sac, on va faire un gros tas de sacs devant, et puis on va prendre cet apéro, cette planchette.
Oh, ça c'est une bonne idée.
Voilà.
Bon, on va laisser Armand se reposer en attendant le repas. Pendant ce temps, on assiste à une conversation sur le mode feutré. Ça se passe dans les couchettes de la cabane, entre trois des participantes.
Aujourd'hui, quand on était au sommet, avec les crampons, avec les skis...
Toi, c'est la première fois que
ouais,
tu mets les crampons?
C'était la première fois.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. Je les ai pris plein de fois, mais je les ai jamais utilisés. Mm-hmm.
Non, là, ça a été. Une fois, on l'avait fait. T'as pas fait encore la descente, on rappelle?
Non, je l'avais fait.
Ah, parce que ça. C'est pour ça que je croyais que quand tu l'ai vu mettre la corde, tu dis, oh, bon, on va faire une descente, on rappelle. Bon, bah, c'était
juste. Bon, ça aurait été.
Ouais.
Ouais, mais c'est.
une sécurité.
C'est bien organisé.
Ah ouais, c'est super. J'ai envie de te dire que tu portes tout ce matériel, toutes ces choses. J'ai pas appris un truc un peu irréel.
Donc là, je suis avec Noël, Daniel et Véronica, et on est comme ça sur les lits superposés dans la cabane. Et on fait le débriefing un peu, voilà, comme ça, à mots couverts.
Enfin, je sais pas, on est tellement bien entouré, encadré. Je me dis, mais
pourquoi changer ?
Non, mais c'est précieux, mais c'est un peu un luxe, je sais pas. On a toujours cette attention, ce regard, cette bienveillance de tout, quoi.
Mais vous les considérez, ces guides, comme des gens infaillibles ? Ou vous vous êtes prête à parfois remettre en doute leur jugement, leurs décisions ?
Non, pas du tout. Non, aucun doute. Non. Moi, je leur fais alors une totale confiance.
Oui, il y a un truc qui m'a toujours dit, Yann, il m'a dit, mais tu sais, moi, j'ai souvent très peur, surtout quand j'arrive au sommet. Tu as pu le remarquer, je panique un petit peu. Mais du coup, il me dit, mais tu sais, moi, je t'emmènerai jamais dans des endroits risqués, quoi. Je dis, moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de rentrer chez moi et retrouver ma femme, quoi. Je ne prendrai jamais de risque, en fait. Mais après, voilà, le risque zéro n'existe pas, mais...
Bon, c'est rassurant quand un guide dit ça.
Oui, c'est vrai, mais du coup, en fait, moi, je lui fais totalement confiance. 100%, je pars même pas avec aucun doute. Quoi. Des doutes, il faut lui en parler. Mais après, il nous rassure, il nous explique les raisons pour lesquelles on fait ça et où on ne fait pas.
Bon, vous avez vu ce qui s'est passé à Arola l'année passée. C'était aussi un groupe avec un guide et une accompagnatrice. Ça, c'est des choses qui vont vous réfléchir. Vous avez analysé aussi ces événements-là?
On sait que le risque zéro n'existe pas, hein. Mais ça serait pas, c'est pas la faute du guide. Je remets pas en cause, de toute façon, le travail du guide, quoi. Moi, je lui fais confiance. Après, il y a circonstances où on peut pas tout mesurer. Tout n'est pas calculable. Tout n'est pas pour n'importe qui dans n'importe quel métier, hein.
Parce que quand il y a des catastrophes, tout le monde y va du sien. On n'était pas là, on n'a pas les détails. Personne n'a les détails. C'est facile de dire c'est la faute du guide. Ou...
Ça a été dit beaucoup par les médias, par d'autres guides.
Il n'aurait pas dû partir. Il aurait pas... Ben, on ne sait pas.
On cherche toujours un coupable, en fait. C'est comme à Crans-Montana, quand il y a eu cette avalanche. Ouais. Tout de suite, c'était de la faute des pisteurs parce qu'ils auraient dû fermer la piste. Donc, on essaie de trouver toujours un coupable. Ouais. Et puis, le coupable... Ouais.
Maintenant, il faut mettre des casques, prendre un arva quand tu skis sur les pistes. Enfin, il y a...
On infantilise les gens un peu.
Moi, je crois que ça devient tellement facile de tout faire maintenant, de faire de la montagne, de faire des trucs, qu'on croit qu'on est des surhommes, quoi. Puis qu'il nous arrivera jamais rien. Mais en fait, la nature, c'est la nature, quoi.
Eh bien, voilà l'esprit du temps, trouver un coupable pour tout. D'une façon aussi, in fine, de déresponsabiliser les gens. En parlant du lien entre le guide et son client, Sophie en a un tout particulier avec Yann.
Je fais de la montagne avec Yann depuis, je pense, à peu près 5 ans maintenant. J'ai commencé l'escalade il y a 6 ans. J'ai 52 ans, c'était le moment ou jamais. Et puis, vraiment, on a une très très bonne connivence. C'est vraiment, on forme vraiment une cordée. Je pense que pour lui, ça a aussi beaucoup d'importance. Alors, on a beaucoup de projets en commun, sans que ça porte à l'avance un nom. On ne fait pas des coches dans les bouquins de montagne. Mais suivant mon évolution, il organise, et puis les conditions, il organise les sorties.
C'est une vraie relation.
Oui, complètement. Il y a le besoin d'avoir cette confiance mutuelle. Quand on est cliente avec un guide, on a cette chance de pouvoir lui laisser pas mal de nos inquiétudes quand même.
Avant la course.
Voilà, qui nous permettent d'avoir le courage de le faire peut-être. Et puis plus on avance dans son évolution des sorties de montagne, plus on a besoin d'avoir un peu plus d'engagement et de responsabilité au niveau de la cordée.
Ouais. Donc Yann t'en confie peu à peu un peu plus.
Voilà, ouais. Mais c'est clair que suivant les courses qu'on fait, il me prévient au départ que c'est des courses qu'on doit terminer maintenant. Ouais. Et puis on y prend goût. à cette responsabilité d'engagement.
Est-ce que tu te serais imaginé une fois avoir une relation comme ça avec un guide ?
En fait, je me rends compte que moi, dans ma vie, j'ai toujours été, j'ai eu la chance. Bon, je fais un métier déjà qui est proche de la nature. Je fais un métier de passion.
Fleuriste.
Fleuriste. À part ça, je fais du land art, donc je fais de l'art dans la nature. Et j'ai toujours eu des mentors et des gens qui m'ont mené plus loin que je pensais pouvoir aller. Et en montagne, c'est avec Yann, ouais.
Belle confiance que celle dont fait preuve Yann vis-à-vis de Sophie, et réciproquement. Allez, c'est l'heure du repas, mais avant, une petite orientation sur la journée du lendemain.
Du coup, aujourd'hui, on est parti de la Vedute Tala. On est remonté le vallon jusqu'au fond de celui-ci. Là, on a remis les couteaux, puis on a traversé le pit sur Gonda pour redescendre cette ligne-là. Puis là, on a remis les pots pour remonter à la cabane. Et puis demain, l'objectif, c'est de partir de la cabane où nous sommes et puis de traverser ces zones ici, d'arriver dans ce grand vallon, puis de passer, c'est pas vraiment un col, c'est une espèce d'épaule, ici au pied du Piz Lavinaire. Et à partir de là, de toute façon, on va basculer dans ce vallon parce qu'on loge ici, demain soir. Mais si on a le temps, les jambes et la météo avec nous, parce que j'en suis convaincu, on va faire une petite course, on va remonter quelque part. Demain, on partira à ski pendant un tout petit bout. Donc, il ne faut pas coller les pots pour prendre de l'avance. Par contre, les pots, on les mettra très vite. Alors, on vous le redira au petit-déj, mais ayez les pots sous la veste. Hein, vous mettez vos pots sur le sac, là, puis demain matin, quand vous mettez votre veste, vous mettez les pots à l'intérieur, parce qu'on va juste glisser en bas. Et ensuite, on mettra les pots et les couteaux. Donc, et les couteaux sur la surface.
Deuxième journée, on est parti de la cabane Yenach et avons traversé quelques pentes relativement raides avec des couteaux. Et un guide Yann sifflotant ce matin, tout se passe bien.
Ça peut pas difficilement être mieux. Hein. Il fait grand beau et le fun annoncé a l'air de vouloir se lever un petit peu plus tard. Alors on est content.
Ce qu'on vient de faire là, c'est remonter une pente assez raide avec des couteaux. Vous nous avez taillé des marches.
On a un petit peu taillé la trace pour qu'elle soit plate. C'est plus confort, ça fait moins tordre la cheville. Ça fait qu'il y a une plus grosse partie du ski qui touche la neige.
Comment on décide où on fait la conversion ?
C'est un peu du flair, un peu de l'expérience et surtout on regarde le terrain, on regarde ce que le terrain nous dit.
Il y avait des vieilles traces, mais on n'est pas passé par là.
Non, parce qu'elles n'étaient pas forcément mauvaises, mais on voyait des virages potentiels ailleurs, dans des zones un peu moins raides, dans des neiges un petit peu plus soft.
Donc là, on est sous un col qu'on va gravir.
C'est ça, on va remonter un vallon, là, pas raide. Et puis après, il y a de nouveau un petit coup de raide pour arriver au col.
Et ensuite, c'est la descente vers le col de l'Alboula.
Exactement, du versant nord, ouais, sur Preda, Bergoun. Alors on va commencer à descendre, et puis si la météo se maintient, on va certainement refaire un petit sommet derrière.
En route.
C'est parti.
Nous terminons la descente direction col de l'Alboula et comme on a encore un peu de jambes, nous cherchons avec les guides dans quel endroit on pourrait regrimper avant de s'offrir une nouvelle descente.
Tirez où, Simon ? Tout est ouvert.
Voilà, hein. On voit que le guide me pose une question.
C'est tendu.
Ouais, c'est bien. Ouais. Moi, j'essaierai d'aller soit par-dessus le rognon rocheux là,
oui.
Par la droite et puis essayer de le traverser,
ouais.
Pour redescendre dans ces pentes où il y a les premiers sapins.
Oui.
Et puis je ferai ça en fait.
Bien.
Et toi?
Non, je pense que j'aimerais bien faire un tour comme tu l'as dit, ouais. C'est-à-dire monter par là-haut, et puis redescendre dans les grandes combes qui arrivent un petit peu plus bas dans les sapins. Je pense que ça peut être pas mal.
Et là, la question intéressante aussi sur des pentes comme ça, le danger d'avalanche, on est à plus de 30 degrés
ouais.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui, ça ne me pose pas trop de soucis parce que les versants nord sont stabilisés relativement bien depuis le temps.
On n'est pas dans une situation d'énorme changement de température. Pas encore, peut-être qu'en fin d'après-midi avec le fun, ça changera. Et puis surtout de tout ce qu'on a vu tous ces jours, des pentes nord qu'on a skiées beaucoup, beaucoup, beaucoup plus raides. Et à gauche et à droite, il n'y a absolument rien qui s'est passé. Donc, pour moi, c'est pas un gros problème. On est tout le temps sur cette couche de surface. Puis dessous, il y a la vieille couche de neige qui date de des semaines et des semaines, qui a eu le temps de largement se stabiliser, d'avoir une bonne cohésion entre les couches. De feeling, et en plus, même si on applique les filtres classiques, c'est pas un problème.
Bon, on va aller faire un peu de ski encore.
On va aller voir si c'est en effet pas un problème.
La descente s'est bien passée pour tout le monde. Après quelques centaines de mètres de remontée volontaire pour aller chercher encore un peu de ski sur des contre-pentes assez raides, nous finissons par arriver dans l'après-midi au petit hameau de Preda, sur le flanc nord du col de l'Alboula. Il est temps de faire le bilan de la journée et de constater l'état des troupes.
Qu'est-ce que tu dis ? T'aimes bien les plantes ? Ouais, c'est joli, hein ?
Comment ça a été cette dernière descente, cette deuxième journée, mesdames et Armand ?
Superbe.
Isabelle ?
Superbe. Belle journée, bon ski, bonne ambiance, tout bien.
Des petits passages techniques quand même.
Oui, mais bon, ça fait partie du jeu.
Armand ?
Moi, c'est un petit peu difficile parce que j'ai un peu des courbatures d'hier, de la longue journée d'hier. Et puis, je tétanisais facilement. Donc, il fallait que je m'arrête souvent pour pouvoir encore contrôler les jambes, quoi.
Est-ce que tu te rends compte, Armand, que tu as 20 ou 30 ans de plus que les participants ?
Oh oui, oui, oui. Non, mais déjà, simplement par l'amabilité qu'ils manifestent à mon égard, les gens qui avaient le même âge que moi avant, bah, ils n'étaient pas du tout avec des égards comme ça. Non, je me rends compte.
C'est un champion. Hein.
Mais j'ai toujours, quand même un peu ce souci. Je me dis, le groupe, à cause de moi, ils vont plus lentement, enfin, ou bien ils doivent s'arrêter. Ça pèse un petit peu, quoi. Puis je me rends compte de nouvelles limites, quand même. Parce que j'ai fait un peu d'entraînement avant de venir. Et puis, disons, quand j'avais un petit peu de la peine à respirer, je prenais mon rythme, tu vois, et puis ça tournait. Puis là, évidemment, que c'est quand même différent quand tu dois prendre le rythme de tout le monde.
Tu vas repartir avec ce groupe pour d'autres aventures.
Ah, écoute, j'aimerais bien, mais je crois que ça risque bien d'être la dernière, d'ailleurs magnifique. Mais
t'es la mascotte,
Non, non, mais je dois dire qu'il y a...
Ils n'ont pas l'air d'accord.
Même, on en discutera, mais je dois dire que c'est quand même des grosses souffrances par moment, tu vois. Et puis, ça se complique aussi par d'autres problèmes. Tout d'un coup, cette nuit, là, j'ai quasiment pas dormi. La nourriture, il faut que je fasse super attention. Tu vois, j'ai des petits détails comme ça qui s'additionnent, qui fait que... Et puis, tu as vu, pour me préparer, je suis toujours en retard, je cherche toujours un truc... Enfin voilà quoi. Non, ça va plus comme avant. Donc je crois que c'est aussi normal à un moment donné de continuer cette activité parce que je continuerai à monter sur des montagnes, mais une journée, peut-être deux, puis tranquillement à mon rythme, mais pour voir les beaux paysages et puis continuer ce que j'adore faire. Et je regretterai toujours, bien sûr, d'être avec ce groupe qui est vraiment exceptionnel. Je dois dire, j'étais avec d'autres groupes et tout. Je sais pas pour leur pour les caresser le sens du poil, mais il n'y a pas d'équivalent quand même. Je veux dire, il y a une ambiance fantastique. Ils sont tous entre eux extraordinaires. Et avec moi, tu as vu ça, je suis au petit soin, j'ai le poisson. J'ai envie de continuer juste pour ça, pour me faire dorloter.
Allez, une ovation pour Armand et pour les guides.
Voilà, c'est ainsi, par une ovation, que s'achève ce reportage au Grison, réalisé avec l'excellente collaboration de Samuel Morier-Genoux. On se dit qu'on aura vraiment touché là, ce que doit être cet esprit de la montagne, celui du partage, de la responsabilité commune, de la solidarité dans le plaisir ou du plaisir dans la solidarité, celui de guides de montagne à la fois fermes et décontractés qui communiquent aussi leur plaisir d'être là, qui ne sont pas engagés pour gérer les risques, mais clairement pour essayer de les réduire. Et j'insiste beaucoup, sur ce distinguo. distinguo entre gestion et réduction des risques. La seule envie qu'on a, évidemment, c'est celle de repartir en haut avec eux. Tous nos vœux pour la suite et grand merci à Armand, Catherine, Isabelle, Sophie, Elvire, Véronica, Daniel et Noël, ainsi qu'aux deux guides Yann Nussbaumer et Arthur Bûcher qui ont permis la réalisation de ce reportage.
Altitude.
Caroline Christina, vous êtes avec nous. Vous étiez en montagne il n'y a pas longtemps et c'est votre chronique.
Nous étions assis, tels des pachas, au sommet du Munch. À cette altitude étourdissante, nous jouissions de l'air particulièrement clément pour la saison. Nous mangeions des M&M's, lancions quelques plaisanteries entre chaque bouchée, réalisions que cette tache que nous voyons sous la brume était bien le lac de Thun et prenions des photos de ce lieu de quelques mètres carrés que nous n'allions pas refouler de sitôt. Parfois, je lançais un regard discret à l'arête que nous allions devoir à nouveau parcourir à la descente. C'est une lame de glace, de neige effilée, taillée par le vent. C'est esthétique, ça pourrait être un accessoire de haute couture pour montagne coquette. C'est en tout cas un accélérateur de rythme cardiaque, car de part et d'autre de cette dentelle délicate, le vide règne. En montagne, l'usage veut que l'on pointe du doigt le paysage. C'est ainsi que l'on présente celles et ceux qui nous entourent. Là, la Jungfrau, cette jeune fille qui a été fatale à mon ami d'enfance. Ici, l'Eiger sur lequel Uli courait en crampons. En face, le Mont Rose. Et puis les Michabel là-bas. Regarde, le Weisshorn, il est blanc depuis ici. Et nos montagnes, tu vois comme elles sont loin? Le Combin est tout petit et le Chardonnay, il ressemble à un pinceau. On avait le doigt pointé vers le paysage. Le proverbe oriental dit que le fou regarde le doigt plutôt que l'horizon. Je ne suis, je crois, pas folle, mais par instant, je regardais le vide qui remplissait l'espace entre le doigt et l'horizon. Ce vide, on ne le décrit pas par des noms. Sa transparence nous invite même à l'ignorer. Pourtant, il est là. Il est omniprésent et prend bien plus de place que le reste. J'ai senti sa présence en montant sur l'arête du Munch. Elle s'est matérialisée par une chaleur déconcertante qui est née au niveau de mon sternum pour se diffuser dans mes membres, dans mes jambes, dans ma nuque, jusqu'à mon cerveau. C'était une chaleur glaciale qui s'est soudainement emparée de mes neurones. Elle les a anesthésiés et j'ai tout juste eu le temps, grâce à une expiration profonde, d'éviter qu'elle ne m'immobilise. Est-ce ça le vertige? Ceux qui en souffrent vraiment me diront que c'est bien pire. Cette expérience m'a tout de même révélé cette immensité de vide qui nous entoure. Si on l'ignore, c'est sans doute parce qu'il nous dépasse. Pourtant, il n'était pas là. S'il n'était pas là, faire de la montagne n'aurait aucun sens. Les montagnes n'existeraient même pas. Tous ces héros des cimes non plus. Et nous, Simon, nous ne serons pas là à raconter des histoires, à traduire des expériences par des mots et à décrire le vide et le silence qui font partie intégrante de ce milieu par l'usage de phrases, de mots et de paroles. J'étais chez un alpiniste l'autre soir, c'est un homme que je respecte beaucoup. Je voulais qu'il me fasse part de ses sensations là-haut, qu'il aille pour moi chercher au plus profond de lui ce qui l'avait mené à défier le temps, le sommeil, le froid, la gravité et le vide. C'était comment? Que ressentait-il? Que pensait-il? Il est d'abord resté silencieux. Et puis il m'a dit qu'il était content, qu'il avait eu du plaisir. Et après un nouvel instant de silence, il m'a juste dit qu'il ne trouvait pas de mots à la hauteur de ses sensations. En fait, il n'en avait pas besoin, car il avait tout dit. Et il m'a rappelé la limite des mots et la valeur du silence. En montagne, les expériences vécues sont si intenses qu'user de paroles pour les décrire, c'est les estropier. Entre alpinistes, c'est essentiellement par le silence qu'on se comprend. Quelques mots servent peut-être à montrer la voie à suivre, ensuite le silence fait le reste. Il ne permet pas d'écouter la montagne, car au fond, elle n'a rien à nous dire, mais à s'écouter soi-même. Et ce qui n'est pas donné tous les jours ici, loin des cimes, où par crainte du vide, chaque interstice se doit d'être comblé. Où le meilleur est celui qui a le dernier mot, les poches pleines, le frigo bien rempli et le carnet d'adresses gorgé de numéros. S'écouter soi-même. Au sommet du Munch, les M&M's dont ma bouche était remplie m'empêchaient de parler. Donc un certain silence régnait. Je faisais face à cette arête, à ce vide. Et je faisais surtout face à moi-même et à mes peurs. Peur de chuter, peur que tout s'arrête sans avoir tout fait, sans avoir tout dit. Un peu comme maintenant d'ailleurs, car si je peine à trouver la chute de ma chronique, eh bien c'est sans doute par peur du vide.
Caroline Christina en direct à 17h54 sur la première. Vous êtes dans Altitude et on va écouter tout de suite Charlie Cunningham. Thank you.
got places that you still need to find. But it's all just a wonderful surprise. The tears in your eyes, they're justified. What they all say, they'll have to think fast. Most of them they wound up dead. Never seen nothing like this. Just fall like a feather into the fire. Fall together, reconcile. It could be all.
Thinking, nous on trouve personnellement tout ça très magnifique, c'est Charlie Cunningham, nouveau titre de l'anglais qui est à l'affiche, tiens ça tombe bien, du festival Zermatt Unplugged, ce sera mardi prochain, mardi 9 avril à Zermatt, donc au Vernissage Club. Vous connaissez le Vernissage Club, Caroline?
Non, je ne connais pas le Vernissage Club.
Vous connaissez Zermatt?
Je connais Zermatt, d'ailleurs c'est là où vous avez pris un grand coup de soleil hein, cette semaine.
Eh bien je le confesse, j'ai un grand coup de soleil parce qu'il faisait très très beau et la crème 50 ne suffit pas. Et les Grisons dont on parlait dans le reportage, le col du Julier, le col de l'Alboula, vous y êtes déjà allé?
Oui, j'y suis déjà allée, mais en été. En revanche, j'ai grandi aux Grisons. J'étais à Coar, j'ai passé une partie de ma très tendre enfance là-bas. Ce qui fait que j'ai un lien un petit peu de cœur avec cette région.
Oui, j'ignorais ça, cette ligne de votre curriculum vitae. En tout cas, si vous voulez retrouver des petites vidéos, des petites images de ce reportage au Grisons entre Julier et Alboula, retrouver les visages d'Armand, Catherine, Isabelle, Sophie, Elvire, Véronica, Daniel, Noël et les deux guides Yann et Arthur, vous pouvez aller évidemment sur le Facebook de la première. La route.
Infotrafic RTS.
Le trafic s'écoule sans encombre sur les routes de Suisse romande. En Suisse alémanique, on roule au pas sur l'autoroute Berne-Zurich entre Wangen an der Aare et Unzingen en direction de Zurich. Davantage d'informations sur le trafic ou l'état des routes en Suisse sont disponibles au numéro 163 au prix de 90 centimes l'appel, puis de 90 centimes la minute.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Voilà, cette édition d'Altitude un peu spéciale pour une fois sans invité est terminée. Un grand merci à ma complice fidèle, Mallory Lang, qui m'a aidé à préparer cette émission. Un tout grand merci aussi à Samuel Morier-Genoux qui en a signé la réalisation. Mathias Brunimann était à la technique, à la programmation musicale. Nous trouvions, comme d'habitude, François Piton. J'aurai plaisir à vous retrouver dimanche prochain à 17h pour parler d'un tout autre sujet. Comment aide-t-on les Suisses, l'aide suisse aux montagnards, que fait-elle?
L'heure avec Karcher, votre spécialiste pour les tâches du nettoyage, karcher.ch.
Il est pile 18h sur la première.